Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors, cette émission est un peu particulière, notamment parce que nous allons nous entretenir avec Rebecca d'Outremer. Alors, c'est une artiste nomade, c'est vraiment l'artiste nomade par excellence. Illustrations, albums jeunesse, livres-objets, relectures dessinées de grands classiques littéraires, films d'animation, conférences ébouriffées. Rebecca d'Outremer n'est jamais dans la répétition. Chaque nouvelle œuvre est l'appropriation d'un nouveau territoire, avec une chose formidable, nous retrouvons le lapin Jacominus Gainsborough et son ami le taureau Polycarpe, un récit mis en parole et en musique par l'autrice, l'auteur elle-même. C'est une association donc récit et musique avec la même précision que celle que l'on peut trouver dans chaque dessin de Rebecca d'Outremer. Nous serons donc avec elle à partir de 14h10 pour un long entretien. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, vous l'avez entendu, c'est Fabien qui est en régie. Pour la partie musicale, en fait, ça va être quelques extraits, quatre extraits de la bande-son de Une chose formidable, donc le dernier livre de Rebecca d'Outremer. Alors, le festival d'Angoulême s'approche tranquillement, c'est à la fin du mois de janvier, le dernier week-end de janvier. Sur le site du festival, on peut trouver l'ensemble des nominés, il y en a beaucoup, notamment pour le Grand Prix du meilleur livre de l'année, pour le Fauve d'or de l'année. Eh bien, il y a donc beaucoup d'albums. Je voudrais démarrer cette émission avec Les Petites Reines qui, lui, concourt pour un prix jeunesse. Et c'est un roman graphique de Magali Le Huche et qui est adapté d'un roman de celui de Clémentine Beauvais. Alors, Les Petites Reines, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la revanche des boudins. Alors, à cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Akima ont gagné le concours de boudin de leur collège à Bourg-en-Bresse. Vous imaginez, on avait évoqué, si vous vous rappelez, dans Les combats invisibles, ce que pouvaient représenter les réseaux sociaux dans ce genre de relations. Et là, les petites reines en sont aussi une illustration. Et ces trois jeunes filles vont découvrir que leur destin s'entrecroise en une date et un lieu précis. C'est à Paris, à l'Élysée, le 14 juillet. Et donc, l'été des trois boudins est donc tout tracé. Destination, la fameuse Garden Party de l'Élysée. Et eh bien, puisqu'on monte à Paris, autant le faire à vélo comme vendeuse ambulante de boudins. Et le lien avec la petite reine devient tout à fait évident. Alors c'est un roman graphique d'ampleur, il y a 160 pages, et c'est avec un dessin à l'énergie qui est avec un dessin très enlevé que... pardon, que Magali Le Huche va mettre en image cette histoire de cette amitié entre ces trois jeunes filles qui décident à leur manière de combattre cette obsession, cette violence dont elles sont victimes sur les réseaux sociaux. Chacune représente une situation particulière. Il y a donc la porte-parole du groupe, Mireille, qui a une mère plutôt très inquiète, qui est prof de philo, qui a un nouveau compagnon, qui a divorcé de son mari philosophe. Il y a Astrid, qui est avec un caractère très différent. Et Akima, qui vient d'une famille où son frère Kader est un ancien soldat et a eu les jambes arrachées lors d'une expédition où 10 de ses hommes sont décédés. Et Akima a besoin de faire valoir sa personnalité dans une famille où la méfiance plutôt règne. Alors c'est la grande force de ce roman graphique de Magali Le Huche, c'est d'une part d'avoir composé des caractères avec beaucoup de pertinence et de précision, ce qui fait qu'il y a de vraies différences entre chacune de ces trois jeunes filles, Mireille avec son côté un peu envahissant, qui n'arrête pas de corriger Astrid sur sa façon de parler, qui essaye un peu de stimuler les autres, mais de façon pas toujours très délicate. Astrid qui finalement va, après avoir peut-être un certain complexe, va affirmer qui elle est, et Akima aussi qui prend vraiment une pleine dimension de ce qu'ils sont en train de vivre, cette montée à Paris à vélo en vendant du boudin dans une petite carriole qui fonctionne parfaitement bien. Puis il y a Kader qui est donc sur son fauteuil roulant avec les jambes amputées et qui va être devant pour mener les trois jeunes filles et les aider à aller jusqu'à Paris. Alors, c'est des dialogues très, très incisifs, très, très personnalisants. Donc ça, c'est une des grandes qualités de la bande dessinée, de pouvoir ainsi, simplement avec le dialogue, donner au personnage une dimension propre. Et puis, il y a cette façon de découper chaque image sans lui donner de cadre. Donc chaque image s'inscrit dans le vide de la page et donc tout semble plus relié, plus intimement associé dans une continuité. Les personnages, ces auteurs de tweets violents sur les jeunes filles et cette façon de créer un concours de boudin pour abîmer l'image de chacune des filles qui ne leur plaît pas, est aussi très bien défini. Le dessin fonctionne efficacement avec cette utilisation d'une représentation qui est vraiment propre à la bande dessinée, cette façon de donner un côté ironique à chaque représentation, à chaque personnage de cette histoire. Et vraiment, l'ensemble fonctionne avec une très grande cohérence du début à la fin de l'histoire. Alors, traiter de ce harcèlement numérique est essentiel. Chaque nouvelle histoire est importante pour alimenter ce thème qu'il est absolument nécessaire de ne pas éluder et d'y trouver une solution. Et donc là, Magali Le Huche participe à cette réflexion autour du harcèlement numérique. Alors, il y a, c'est peut-être la seule réserve que j'émettrais, c'est sur le personnage du harceleur principal qui a créé donc ce concours de boudin. Il y a une fin où peut-être que ces harceleurs n'ont pas toujours des excuses comme semble le dire, même si donc il fait ce qu'il faut pour rattraper les choses. Mais dans la réalité, on l'a vu que parfois, il y a vraiment simplement le fait que cet espace numérique offre une liberté dont il n'utilise pas à bon escient. Mais c'est un petit détail parce que vraiment, cette nouvelle contribution, ce nouveau récit pour évoquer cette façon de pouvoir dépasser ce type de harcèlement et de devenir vraiment acteur d'une situation qui va d'ailleurs complètement les dépasser tout au long de cette histoire. C'est une très bonne idée, en tout cas une sélection pour les prix d'Angoulême tout à fait bienvenue et pleinement justifiée. Les Petite Reine de Magali Lehuche est donc un roman graphique adapté du roman de Clémentine Beauvais. C'est publié par les éditions Sarbacane. Les 160 pages de cette histoire sont au prix de 25 euros. C'est publié en France, Sarbacane étant un éditeur militant. Et on va écouter une première ambiance d'une chose formidable, le dernier livre de Rebecca de Tromer, et on sera avec elle tout de suite après.
Bien sûr, il avait promis à Douce qu'il ferait un gâteau aux pommes pour le dîner. Son ami Polycarpe était leur invité ce soir, et Polycarpe adorait le gâteau aux pommes. Mais Jacominus avait passé l'après-midi à gratter son jardin et se sentait un peu las. Comme il avait tout de même du temps avant de se mettre à la cuisine, il laissa sa béquille contre le grand pot de romarin et alla s'allonger à l'ombre du cerisier, là où la température était idéale pour les petites siestes. Était si bien couché de tout son long dans le trèfle. À travers les pousses vertes, Jacominus observa les lilas et l'aubépine piquée de boutons roses. La pelouse était à son goût, un peu folle, fauchée juste de temps en temps pour la bonne odeur du foin qui sèche au soleil. Jacominus bâilla et jeta un dernier coup d'œil sur le mur plein de mousse, là-bas, derrière ses minuscules fleurs bleues préférées. C'est au moment où il allait s'endormir que surgit tout à coup de sa mémoire un souvenir enfoui. Le souvenir d'une chose formidable!
Par la pluralité de son œuvre, Rebecca d'Outremer est une artiste nomade par excellence. Depuis 1996 et ses premiers albums jeunesse pour Gauthier Langros, Rebecca de Tromère n'a de cesse d'étoffer ses écritures dessinées, d'explorer de nouveaux espaces narratifs. Illustrations, albums jeunesse, livres-objets déploient un dessin où la précision, le lointain sont des éléments constitutifs. Films d'animation, Kériti, la maison des contes, relecture dessinée de classiques littéraires, des souris et des hommes, la conférence ébouriffée, spectacle sur sa propre création, confronte le dessin et l'œuvre de Rebecca d'Outremère avec le temps. Elle utilise par exemple la bande dessinée et des styles de dessin très différents pour des souris et des hommes. Avec une chose formidable pour cette nouvelle histoire de Jacominus Gainsborough et son ami Polycarpe, Rebecca d'Outremère donne une voix à ses personnages et un univers musical. Un récit raconté par l'auteur elle-même et mis en musique par Nice Le Tan. Rebecca d'Outremère a créé une conférence ébouriffée, un spectacle vivant sur sa création où elle interprète son propre rôle avec également en scène Luis Alberto Rodriguez. Nous sommes avec Rebecca d'Outremère pour qu'elle nous accompagne dans son œuvre plurielle. Bonjour Rebecca d'Outremère.
Bonjour.
Alors, comment s'inscrit une nouvelle œuvre dans cet grand ensemble qu'est votre œuvre aujourd'hui, votre grande œuvre?
Vous voulez dire, vous voulez parler de ce dont on vient d'entendre l'extrait?
Voilà, c'est ça, d'une chose formidable.
Alors déjà, je vous prie de m'excuser parce que vous n'allez pas reconnaître ma voix, mais j'ai un rhume terrible. Donc je pense que c'est pas tout à fait le même son que ce qu'on entend dans l'album du livre. Mais donc c'est en effet une chose formidable, c'est le dernier des quatre livres que j'ai réalisé autour du personnage de Jacominus Gainsborough. Et là, c'est un travail et un projet un petit peu particulier, puisque cette série est aussi particulière dans le sens où je change de forme et d'objet et de type de narration et d'écriture, et etc., et de rythme de livre à chaque fois. Donc c'est ce que j'appelle aujourd'hui un peu mon anti-série. Même si je développe à chaque fois des histoires autour du même personnage principal, donc Jacominus Gainsborough et tous les personnages qui gravitent autour de lui, qui sont nommés et identifiés depuis le début dans le premier album, qui était Les Rigeurs de Jacominus Gainsborough. Donc même si c'est le même univers, la même vie, le même personnage, je prends le parti de changer de point de vue sur ce qui a pu lui arriver dans sa vie, d'objets, de façon de raconter les choses. Et c'est toujours ce qui m'anime à chaque fois que je fais un nouveau titre dans cette série-là. Donc une chose formidable, ça a été une nouvelle expérience dans ce sens-là. Et j'avais décidé de travailler avec du son cette fois-ci. C'était la base de mon projet.
Alors, quelle relation vous avez avec Jacominus Gainsborough après déjà les trois premiers livres et puis celui-ci?
Alors, c'est un personnage qui est apparu pour une première fois donc dans Les Rigeurs de Jacominus en 2018, si je ne me trompe pas. Et je vous avoue que dans un premier temps, je n'avais pas du tout imaginé en faire une série. Enfin, j'avais eu l'envie de raconter simplement une vie. C'était le thème de mon livre qui paraît un peu fou, un peu beaucoup, de dire je vais parler de la vie. Mais enfin, c'était quand même ça mon truc. Je me dis comment je peux parler de la vie en 12 grands tableaux et comment je peux raconter une vie en gros 12 grands tableaux. Quand je parle de vie, c'est bien d'une vie humaine dont il s'agit, même si mon personnage a définitivement une tête et une allure de lapin. Il a bien une vie humaine et des émotions tout à fait humaines et des bonnes choses et des belles choses qui se passent dans sa vie, ce sont des choses de vie humaine. Donc j'ai commencé à travailler comme ça avec lui, et petit à petit, c'est ça qui fait que ma relation change un peu avec mon personnage, c'est que il a pris de l'épaisseur un peu par lui-même. On peut dire que j'étais un peu frustrée à la fin du premier livre de n'avoir fait que survoler son existence, puisque forcément je voulais parler de toute son existence, du début, donc de ses premières heures à sa fin et à sa mort, que j'évoque très franchement. Et je me suis dit, c'est quand même dommage de ne pas en dire plus. C'est pour ça que j'ai initié ces autres projets tout en me disant je vais quand même pas faire 15 fois la même chose, pas question. Je vais renouveler à chaque fois le genre et l'objet, mais m'autoriser à me replonger dans cette vie que j'ai déjà toute décrite, même si je l'ai survolée énormément. Et je découvre moi-même ce qu'il peut y avoir dans cette vie sans que je l'ai conçue dès le départ. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte.
Si,
mais...
c'est très bien.
Voilà. Donc je découvre moi-même un personnage qui existe déjà, qui est créé par moi-même. C'est un peu étrange. Je complète sa vie. Voilà comment ça se passe entre nous en ce moment.
Rebecca d'Outremer, est-ce que ce principe de ne pas refaire, de ne pas répéter, agit comme une contrainte dans votre travail?
Alors, ça paraît comme une contrainte, mais c'est plus un principe qui m'aide, moi, au contraire, à travailler. Moi, j'ai besoin de me donner ce qu'on peut appeler, oui, des contraintes ou des barrières. J'inscris mes histoires dans une forme qui est décidée à l'avance. Et ensuite, je vais imaginer quelle histoire peut coller à cette forme. Ça se passe souvent dans le sens contraire de ce qu'on imagine. Les gens imaginent qu'on a des idées comme ça, des envies de... Enfin, pour ce qui me concerne en tout cas, mais envie de parler de ceci, de cela, des besoins d'exprimer telle ou telle histoire, et qu'on va ensuite chercher une forme qui va bien avec le sens. Ben, j'avoue que moi, je fonctionne exactement de façon différente. Quand j'ai voulu, par exemple, faire ce livre avec du son, je me suis dit, qu'est-ce que je peux raconter autour de Jacobinus qui justifierait qu'il y ait du son, et quelle histoire je pourrais mettre au service d'un livre musical. Et j'ai pensé notamment que c'était une bonne idée de créer du son autour d'un souvenir qui émerge. Je me suis dit que ça devait être une création de son intéressant, en fait. Et c'est comme ça que j'ai imaginé travailler autour du souvenir, qui en plus s'accordait bien avec la vie et le personnage de Jacobinus. Donc, ça peut paraître des contraintes que je me donne, mais au contraire, pour moi, c'est une espèce d'impulsion qui me permet de créer mes histoires.
Rebecca d'Outremer, donc là, vous évoquez la bande-son de votre histoire, une chose formidable. Donc, il y a à la fois de la musique, mais il y a aussi un ensemble de bruits qui donne une matière sonore aux images, au fond même des images. Comment c'est créer cette relation entre texte et image, entre texte et musique et entre dessin et musique?
Alors, encore une fois, j'ai vraiment imaginé et voulu travailler autour d'un... Excusez-moi. Autour d'un album illustré et musical, avant même d'avoir écrit l'histoire. Et j'ai pensé donc à travailler sur le thème du souvenir, et je savais que je voulais travailler avec différents musiciens, et donc Nils Letan, qui est mon fils, hein, qui est musicien, et batteur et compositeur, étudiant encore, mais qui crée déjà des choses, et Martin Saez, que je connaissais déjà pour avoir travaillé avec lui autour du spectacle dont vous parliez tout à l'heure, la conférence ébouriffée, et qui lui s'est occupé de tout ce qui est création d'ambiance, etc. Puis ensuite, ils ont composé tout ça ensemble. Et il y a une troisième personne qui est intervenue, Philippe Morino, qui a créé la chanson de fin de l'album. Voilà. Donc quand j'ai imaginé l'album au départ, j'ai conçu dans une maquette et un storyboard, comme on fait dans... beaucoup, la plupart du temps, dans n'importe quel livre illustré, et encore plus pour une bande dessinée. Mais j'ai conçu la maquette et le contenu des images et la composition des images en pensant au son qui pouvait être créé, en discutant avec les musiciens et donc Martin Saez qui avait les bruitages à compiler, et en me disant, voilà, si je mets telle chose dans telle image, ça pourra générer tel son, et ça sera intéressant. Donc j'ai vraiment tout imaginé de front, en collaboration avec le bruiteur, mais ça n'est pas l'image qui a prévalu sur le son ou le texte sur l'image. Les choses ont avancé de front pour que ce soit cohérent. Voilà comment ça s'est passé.
Dans une chose formidable, on a la sensation d'un récit qui est écrit comme une musique, avec une ritournelle, avec cette phrase qui arrive régulièrement, et les deux amis pressèrent leur tête entre leurs mains pour mieux se souvenir. Est-ce qu'il y a une volonté de Rebecca d'Outremer d'écrire le récit comme une musique ?
Alors, de toute façon, quel que soit l'album, c'est bien que vous disiez ça, parce que c'est vraiment ma sensation à chaque fois quand je fais un album. Il faut trouver un rythme dans le livre. Excusez-moi encore. Et effectivement, on peut comparer la mise en scène, si vous voulez, d'un livre illustré à une chanson, ou à de la musique, ou à un opéra, si on a plein de grandes ambitions un peu vastes. Mais en tout cas, il faut définir un rythme et... Comment dire, avec des... Moi, je suis pas du tout spécialiste de la musique, mais avec ce qu'on pourrait appeler des refrains, des couplets, une ouverture, des breaks, etc., etc. Et mais dans tous les livres, c'est comme ça. Je crois que vous avez parlé en introduction du livre Les souris et les hommes,
oui.
Donc cette illustration que j'ai faite autour du texte de Steinbeck. Ben, pour ce livre-là aussi, j'ai imaginé la mise en image, la mise en scène illustrée de ce livre, comme de la musique. À chaque chapitre, j'avais une ouverture, comme l'ouverture d'un acte à l'opéra. Je suis pas du tout spécialiste de l'opéra, hein, mais j'imagine que voilà, il y a des codes qu'on peut établir et toute une architecture de composition. Et on peut tout à fait faire un parallèle entre la musique et la mise en scène d'un livre illustré. Et encore plus pour une chose formidable, j'avais ce rythme en trois temps où il y a les deux personnages donc qui vont se mettent à la recherche de leurs souvenirs en se posant des questions. Puis ils vont faire émerger le souvenir qui correspond à une grande page double sans texte qu'il y a dans le livre, mais qui va être illustrée, elle, par l'ambiance sonore plus basée sur des bruitages et une musique un peu déstructurée comme ça qui illustre, enfin qui met en son ce souvenir déformé et flou qui apparaît lentement dans la mémoire. Et puis, troisième temps, le souvenir qui est enfin apparu et dont les deux amis peuvent se parler et évoquer avec plus de précision. Puis après, on recommence. Ils réfléchissent, parce qu'ils ne se souviennent jamais du bon truc. Et ils recommencent. Donc, ça fait à chaque fois 1, 2, 3, 1, 2, 3, une espèce de valse, enfin, en tout cas, de rythme à trois temps. Donc, c'est pas du tout aberrant, oui, de parler de composition musicale pour un livre illustré. Et en plus, moi, j'avais cet accompagnement à chaque fois d'une vraie musique. Et avec les musiciens, on a travaillé des espèces de petits jingles de fin de chapitres. Il y a 5-6 chapitres dans ce livre-là. Donc à chaque fois, il y a quelque chose qui revient, des espèces de points d'orgue comme ça qui marquent la fin d'un chapitre, puis le début d'autre chose. Enfin, il faudrait l'écouter en détail, mais c'est vraiment comme ça, oui, qu'on a conçu les choses.
Alors je vous propose qu'on entende une autre séquence de cette bande-son et puis on se retrouve tout de suite après pour parler dessin. À tout de suite.
Parfait.
Bah alors, si ce n'est pas le Nebomusiltes vris, qu'est-ce que c'est ?
Mais je ne sais plus, Polycarpe.
Bah voyons, dirais-tu alors que cette chose formidable était plutôt... rare ou très banal?
Eh bien, chercha Jacominus, j'ai l'impression que cette chose était tout à fait banale.
Oh !
Fit Polycarpe. Mais tout à fait unique pour nous deux, précisa Jacominus.
Très bien,
conclut Polycarpe.
Réfléchissons.
Et les deux amis pressèrent leur tête entre leurs mains pour mieux se souvenir.
sais !»
s'écria Polycarpe.
« Tu te rappelles l'adresse ?»«
Quelle adresse ?»«
L'adresse du café, où je t'avais retrouvé le jour où... » »«
Tu penses au jour de mon petit coup de mou, Polycarpe ?»«
Bah c'est ça, le jour de la grande déprime !»«
Bah écoute, soupira Jacominus. Chacun a le droit d'avoir un petit coup de mou, de temps en temps. »
Bah bien sûr !»
concéda son ami.
« Pourtant, tu avais tout pour être heureux, n'est-ce pas ?»«
Mais Polycarpe, je ne m'en rendais pas compte. »«
Oh, c'est du passé, tout va bien maintenant. Et tu te sens mieux, non ?»«
Ah ben, beaucoup mieux. Grâce à toi. Heureusement que tu étais là. »«
Bon, n'en parlons plus. » »«
Polycarpe, tu te souviens que nous nous étions promis de revenir dans ce formidable petit café ?»«
Ah ben, évidemment. Le jour où nous serions parfaitement heureux. »
Rebecca d'Outremer, quelle dessinatrice êtes-vous ? Comment êtes-vous sur votre planche à dessin ? Dans Une chose formidable, il y a une précision de l'écriture dessinée où toutes les surfaces sont animées, les couleurs ont ce grain qui donne une intensité et une beauté à chaque image. Comment se passe ce travail de dessin ?
C'est difficile, il faut faire attention de bien décrire les choses donc à la radio, mais c'est très simple, mais il faut comprendre déjà que je travaille de façon traditionnelle, comme disent maintenant les plus jeunes, c'est-à-dire sur du papier aquarelle, à la main, avec un pinceau, et des tubes de gouache, des tubes de peinture de toutes les couleurs. Et je travaille, c'est de la peinture à l'eau, hein, la gouache, avec la particularité... De la lumière qui vient toujours du papier. On ne peut aller que vers l'ombre, si je peux dire ça. Quand on peint avec une technique aquarellée, on ne peut pas revenir vers de la lumière, puisque le blanc et la lumière n'existent que par le blanc du papier. On ne peut pas mettre de peinture blanche. Donc ça, c'est lent, parce qu'on ne peut pas se tromper, pour résumer. On ne peut pas tellement revenir en arrière. Et donc je travaille par couche, petit à petit, par petites touches. Donc c'est vrai que c'est un artisanat, en quelque sorte, assez minutieux et assez lent et assez paisible et très agréable pour moi. Je ne sais pas quelle dessinatrice je suis, mais mes journées sont assez paisibles et c'est un rythme de savoir-faire assez lent, enfin qui s'inscrit dans un rythme qui n'a rien à voir avec quelque chose qui serait fait sur ordinateur à toute vitesse en faisant clic-clic et pomme Z. Non, ça marche pas du tout comme ça. Voilà.
Alors, il y a dans Une chose formidable un point dans vos dessins qui me paraît très, très important, c'est le lointain. Vous n'hésitez pas à faire des très grandes scènes qui vont parfois grouiller de personnages ou avoir un décor très dense, très, très fourni. Le papier peint des murs est aussi travaillé avec beaucoup, beaucoup de précision. Qu'est-ce que vous permet ce lointain dans vos histoires, Rebecca d'Outremer ?
C'est-à-dire que dans un livre comme ça, dans le livre illustré, en tout cas tel que je le pratique moi depuis longtemps, j'ai finalement assez peu d'images comparé à une bande dessinée où on va dérouler les scènes les unes après les autres de façon séquencée avec une multitude d'images où on peut aller porter la caméra sur un détail puis s'éloigner puis recommencer, etc. Moi j'ai droit simplement dans un livre illustré, tel que je le fais en tout cas, qu'à des tableaux, dans le sens tableaux théâtraux. Donc dans une seule image, c'est vrai que j'ai tendance à reculer ma caméra pour montrer des fois, pas toujours, mais souvent des vues d'ensemble et que le lecteur ou le spectateur hein, de ma petite pièce de théâtre sur papier puisse passer du temps à observer ce qui se passe en premier plan peut-être, mais beaucoup en second plan et découvrir des petites choses qu'il n'avait pas perçues au premier coup d'œil. Qui vont donner du sens aussi à tout le reste. Enfin. Donc je pense que par exemple, dans Une chose formidable, vous avez vu la scène sur la plage,
oui.
enfin sur la jetée du port où on est dans les souvenirs de Jacominus, donc les souvenirs sont toujours un petit peu transformés, un peu étranges, un peu surréalistes. Donc là, l'eau est montée sur la jetée et l'ensemble des gens qui disent au revoir au bateau qui s'en va sont dans l'eau. Ils sont jusqu'à la taille. Et donc il y a un pianiste dans l'eau, un landau dans l'eau, une voiture dans l'eau, tout est dans la flotte. Et donc à première vue, on voit une scène d'un port. Et si on s'y regarde bien, on sent bien que l'eau a monté un peu trop. Et moi j'aime bien qu'il y ait des différents niveaux de lecture comme ça, et qu'on puisse regarder dans chacun des personnages, parce que je ne sais pas combien il y a de personnages dans cette image-là, par exemple, peut-être 50, je ne sais pas, 60. Ben, chacun a son petit truc. Il y en a un qui fait du vélo, un qui lit son journal, un qui je ne sais quoi. Mais il y a de quoi passer du temps. Et ça me plaît de faire des images où les gens vont pouvoir passer du temps et se plonger dedans, sans balayer la chose au premier regard et hop, passer à la page suivante. C'est pas le rythme de mon histoire. Donc il fallait aussi, dans cette idée de souvenir qui émerge, dans ce livre-là en particulier, hein, mais dans les autres histoires aussi, j'ai mille raisons de faire que les lecteurs s'attardent sur mes images, mais dans ce livre-là, le temps que le souvenir émerge, il faut qu'il existe, donc il faut que le lecteur ait suffisamment à observer pour qu'il ne tourne pas la page tout de suite, et qu'il ait un monde complet à sa disposition. Voilà.
Sur quel format travaillez-vous, Rebecca d'Outremer?
Il faut toujours imaginer les images plus grandes que qu'elles sont imprimées dans le livre. Donc ça va être du 120, 130, 140, 150%. Donc toujours en surface, ça va presque faire deux fois plus grand. Si vous voulez.
Et c'est plus confortable, alors qu'il y a beaucoup plus à remplir.
Oui, alors c'est exactement ça. Il y a un moment, le temps passé sur une image, c'est du centimètre carré. Malheureusement, mais c'est quand même plus confortable dans le sens où, comme j'aime travailler dans le détail, évidemment, si j'agrandis mon image, je me donne plus de chances d'atteindre certains petits détails qui vont être réduits à l'impression, qui vont donner de la finesse au dessin. Si je faisais le contraire, vous voyez bien que ce serait très compliqué pour moi. Et j'ai des bons yeux, mais enfin, donc j'ai intérêt à travailler en grand et à gagner de la finesse en réduisant.
Comment se passe la fin d'un récit comme ça? Est-ce que vous reprenez des images? Est-ce que vous refaites un ajustement entre le texte et les dessins? Est-ce que au niveau de la bande son, vous revenez pour régler un certain nombre de détails ou tout avance pour créer une œuvre définitive dès la dernière image achevée?
Alors très franchement, bon, là il y avait effectivement le paramètre du son qui est venu en même temps, donc c'était le troisième travail qui n'apparaît pas dans les autres albums, mais de façon générale, quand je fais un album, je conçois les choses de façon assez précise avant d'exécuter, entre guillemets, les images. Et quand je passe à la couleur, normalement, c'est clair dans mon esprit ce que je dois faire. La mise en couleur, c'est vraiment de l'exécution. Tout le livre est maquetté, crayonné, en noir et blanc, par des petits croquis qui m'ont permis de trouver le rythme, comme on l'évoquait tout à l'heure. Puis ensuite, les crayonnés sont dessinés très précisément pour avoir le contenu, la compo, etc. Tout le détail des visages, des objets, de toute la composition. Et quand j'attaque la couleur, je vais pas me tromper. Encore une fois, je peux pas corriger, moi, en travaillant à la gouache. Je veux pas me reprendre. Donc, si je suis pas sûre de ce que je fais, j'attaque pas la couleur. Donc, j'attends pas d'avoir fini pour me dire, ah ben non, finalement, j'aurais préféré mettre une voiture au premier plan ou mettre un sapin à la place du platane. Vous voyez, ça, c'est pas envisageable, ça. Parce que je ne peux pas techniquement le faire. Donc, je dois être très ferme dans mes choix. Et ça me prend donc du temps de réaliser la maquette et les crayonnés. Mais une fois que on n'est jamais sûr hein, de ce qu'on fait, mais une fois que j'ai établi ça, et je peux corriger je peux corriger des crayonnés, des croquis, et à ce moment-là du texte, mais une fois que j'ai décidé que c'était bon et que j'exécute la couleur, le livre est fini. En fait, le livre est terminé avant que je fasse la couleur. Après, là, il y a eu le paramètre du son. Donc oui, on a travaillé ensemble. Tout ce qu'on peut corriger jusqu'au dernier moment, on le fera. Mais la mise en couleur, non, elle ne peut pas être corrigée. Donc elle est conçue bien avant.
Ça pas des moments parfois un peu frustrants d'être dans cette exécution de la couleur, Rebecca d'Outremer?
Certains
dessinateurs redoutent ça, redoutent de devoir penser un peu définitivement avant de dessiner, par exemple.
De toute façon, il y a bien un moment, quelle que soit votre technique, il y a un moment, il faut dire le livre par l'impression. Donc il y a bien, bel et bien un moment où quelque chose est définitif. Après, chacun rythme les choses comme il veut. Mais moi, mon définitif, il est avant la mise en couleur. Mais la mise en couleur, pour tout dire, c'est un aspect... C'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, mais c'est pas du tout l'aspect le plus compliqué pour moi. C'est peut-être le plus long, ça dépend, hein, mais ça peut être le plus long. Mais intellectuellement, c'est pas le plus fatigant. C'est effectivement une réalisation qui est un savoir-faire d'ordre artisanal que je finis par contrôler petit à petit avec les années de pratique. Ça, c'est sûr que je me sens plus à l'aise aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et c'est toujours évidemment très perfectible, mais bon, pour l'instant, mon outil fonctionne pas trop mal. Mais c'est un moment, la mise en couleur, elle n'est pas frustrante. Ça n'a rien à voir avec la recherche du dessin et la conception du livre, l'écriture, ou encore moins la conception d'un son, ou de la mise en scène, ou de la maquette, si vous voulez. La mise en couleur, c'est une réalisation technique qui me permet, moi, de me reposer mentalement, de me fatiguer un peu physiquement. Mais pendant que je fais de la couleur, c'est des moments assez doux, c'est assez méditatif, puisque c'est un petit peu répétitif, un peu. Et en même temps, il y a un vrai plaisir sensuel de créer ces dégradés sur la toile, etc. Mais je pense que n'importe quel aquarelliste ou n'importe quel peintre à l'huile ou à l'acrylique ou à n'importe quoi vous dira la même chose. Il y a un moment d'exécution de la couleur et qui n'est plus trop dans la réflexion, mais dans le savoir-faire du mélange des valeurs, des nuances et de la lumière, mais je pense qu'il est moins raisonné. Il y a peut-être des illustrateurs qui travaillent au feeling sans savoir où ils vont. J'y crois pas trop. Je pense que c'est pas du tout ma façon de travailler. En tout cas, pas dans un style tel que je le développe moi et comme d'autres le font. Hein. Mais quand les images sont construites, qu'il y a du volume, de la lumière, si vous partez droit devant vous sans savoir ce que vous voulez dessiner et où vous voulez mettre la lumière, je vois pas comment ça peut se passer bien. Donc non, on est obligé de concevoir des trucs au début. Et l'exécution, c'est pas frustrant, c'est long, c'est... Oui, ça peut être un peu ennuyeux quand vous avez un énorme livre à faire à la fin, les dernières images. Ça vous fait râler un peu d'avoir à réaliser tout ça. Mais c'est aussi un plaisir physiquement de quand vous contrôlez un peu un geste, le plaisir de faire le geste, quoi. Je pense que n'importe quel artisanat peut le plaisir de faire, de la poterie, de coudre, de sculpter, de modeler quelque chose. Il existe réellement, donc c'est pareil pour la peinture. C'est pareil.
Nouvelle séquence sonore à partir donc d'une chose formidable. Et puis on se retrouve pour parler cette fois du temps, tant dans votre œuvre. De nouveau, à tout de suite.
Toujours pas, mais nom de nom Jacominius. On ne peut tout de même pas passer à table sans l'avoir retrouvé. Si ce n'est ni le Belsotrus Nitrelmus, ni le cabaret de la Joliette, ni Hardy Compagnon, ni la blague du soldat sans fusil, ni le sel de Guérande. Qu'est-ce donc, enfin?
Mais vraiment, mon vieux, si je m'en souvenais, je t'assure que ça fait longtemps que je te l'aurais dit.
Mais alors, enfin quoi? Tu dirais finalement que cette chose formidable était plutôt ronde ou plutôt carrée?
Ça alors? Mais c'est curieux, Polycarpe.
Curieux?
Parce que, Polycarpe, j'ai l'intime conviction de quelque chose...
Quelque chose?
De très rond, Polycarpe. Mais j'ai également la sensation...
La sensation?
D'un contact terriblement...
Terriblement...
Anguleux. Assez étrange, hein? Pas vrai, Polycarpe?
Étrange? Mais quel charabia, Jacominus!
Tu as l'esprit vraiment embrouillé. Réfléchissons.
et les deux amis pressèrent leur tête entre leurs mains pour mieux se souvenir.
Rebecca d'Outremer, vous avez confronté votre œuvre dessinée au temps. Alors il y a bien sûr dans l'album jeunesse un temps, mais avec des images qui sont en parallèle de ce récit. Mais par exemple avec Kerity, on a le film d'animation, ou avec votre lecture dessinée des souris et des hommes, il y a aussi une utilisation de l'image et du temps du récit, comme dans la bande dessinée, par exemple. Alors, qu'est-ce qui vous anime dans cette association entre le temps et votre univers graphique ?
Oh là là, elles sont difficiles, vos questions.
Ah, c'est pas le but, hein, excusez-moi.
C'est large, mais... je veux dire. Non, mais c'est-à-dire que il est vrai que dans la série Jacominus, c'est vrai que le temps, l'histoire du temps, enfin le thème, la considération sur le temps qui passe, c'est un peu le cœur du projet. Puisque j'ai démarré en racontant une vie, puis en parlant de souvenirs, puis en parlant d'un arrêt sur un moment dans une vie, etc. Donc sans le vouloir, en fait, hein, au départ, je me suis rendu compte que c'était toujours le thème qui animait mon projet. Mais je crois que si vous regardez un peu les... Enfin, je constate que sans en prendre la décision, c'est toujours le temps qui me fascine dans une histoire. Mais je me demande si on peut vraiment faire autrement. Il faudrait regarder ce que font les autres, mais... Les histoires s'inscrivent dans le temps, forcément. Il y a toujours des souvenirs, des regrets, des choses qui vont arriver, qui sont arrivées, qui s'imbriquent les unes dans les autres, qui influent, une chose du passé va changer l'avenir, etc. Donc, c'est ça qui est fascinant. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça qui me fascine dans les histoires. Et je vois bien que, par exemple, le projet sur lequel je suis en train de travailler... aujourd'hui, qui est un roman graphique pour adultes, hein, rien à voir avec l'histoire pour enfants, ni même le Jacominus, je vois bien que je m'amuse à combiner des personnages, beaucoup de personnages qui n'ont pas vécu les mêmes choses au même moment, mais qui sont liés les uns aux autres, parce que les actes des uns ont généré ceux des autres, etc., etc., et tout ce squelette, cette architecture de vie qui sont imbriquées les unes dans les autres, des jeux, des conséquences et de la responsabilité des faits les uns par rapport aux autres, c'est ça qui est fascinant. C'est comme ça que je trouve que les histoires fonctionnent bien. Si les faits dans une histoire arrivent n'importe comment, sans raison et sans lien dans le temps... En fait, je trouve les histoires un peu emmerdantes, quoi. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup les histoires qui sont trop pleines de fantaisie, où les faits n'ont pas forcément de lien les uns par rapport aux autres, et que les faits peuvent arriver n'importe comment parce qu'il y a de la magie. C'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. J'aime bien qu'il y ait des raisons aux choses. Donc voilà, par rapport au scénario, c'est ça. Puis moi, je ne sais pas si ça...
Pourquoi choisir par exemple la bande dessinée qui a un temps dans le récit, dans la composition des images, où il faut... on a une unité de récit qui la double page avec des images qui sont avec une certaine continuité, qui a bien sûr des variations, mais le film d'animation qui a aussi un temps propre... qu'est-ce qui vous intéresse dans ces deux médias, médiums ?
Non, mais après, là, c'est juste que mon métier, j'avoue que je peux essayer de répondre à votre question, mais moi, j'adore mon métier, j'adore d'une part dessiner, créer des images, j'aime travailler de façon manuelle et consacrer beaucoup de temps à mon travail. Ça ne me fait pas peur d'utiliser du temps moi-même pour créer mes images. Au contraire, je sais pas, le fait de s'acharner avec un peu d'opiniâtreté, ça m'a toujours plu. Moi, j'aime bien les challenges comme ça, donc ça me plaît. Et après, les différents médiums, oui, dessins animés, le hasard des rencontres font que j'aime bien, ce sont des défis pour moi. Les challenges sont différents, il faut travailler ou en équipe dans le cas de l'animation, ou seul dans le cas d'un livre, ou en une autre forme d'équipe quand on fait un livre CD. Donc ça, après, humainement, c'est intéressant en soi, indépendamment de mon métier. Moi, j'essaye de me maintenir comme quelqu'un de curieux et puis le changement des médiums, des équipes, des principes, des critères et des difficultés du boulot me rendent plus... m'apprennent des choses, si vous voulez. Donc travailler sur un film d'animation, par exemple, ça m'a appris je pense que ça m'a fait faire des progrès parce que j'ai dû dessiner des personnages sous toutes les coutures, ce que je ne fais pas quand je fais un livre. Et ça m'a servi après pour faire mes bouquins, travailler plus dans le mouvement, etc. Mais en fait, le temps, c'est un faux sujet, hein. Vous pouvez parler du temps sur n'importe quoi, hein. Vous pouvez parler du temps à la cuisine, il y a le temps de cuisson, pour le voyage, pour la photographie, le temps de développement d'une photo. Vous pouvez parler du temps tout le temps. Le temps, c'est la vie. C'est tout ce qui nous fait qu'on parle là, maintenant. Donc c'est un peu un faux thème, si vous voulez.
Alors, même désolé.
Si on peut en sortir un fil à tous les coups, quoi. Voilà.
Excusez-moi pour ce faux thème, mais bon, pour moi, il y avait... Et par exemple, la conférence ébouriffée, qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre écriture de mettre en scène votre création ?
Après, encore une fois, moi, je suis curieuse. J'aime bien les challenges, quoi. J'aime bien... puis je m'ennuie très vite. Peut-être que c'est justement peut-être ça mon problème avec le temps, c'est que ça me fascine et en même temps, il faut que ça passe agréablement. Donc, la conférence ébouriffée, donc c'est un spectacle, pour expliquer un petit peu. C'est une conférence comme j'ai donnée, comme n'importe quel auteur, régulièrement à des publics de jeunes gens ou d'adultes ou à tout public, à force de raconter ma vie, mon œuvre. Encore une fois, on nous le demande souvent, hein. Je suis pas la seule auteur, dessinateur à faire ça. Je me suis dit, tiens, je vais théâtraliser ce discours que je faisais sur scène avec ma bouteille d'eau, ma petite projection d'image. Je me suis dit, je vais théâtraliser ça, ça sera plus intéressant, ça sera plus rigolo. Puis j'étais quand même sur scène, de toute façon déjà, donc on a envie tout à coup de... Parce que je le sentais comme ça, qu'on peut transmettre des choses au public qui est devant soi, hein, donc un public vivant, contrairement à un public masqué, que sont les lecteurs d'un livre. Je me suis dit, tiens, comment on fait pour manipuler un peu un public, en tout cas pour partager des émotions, pour leur dire les choses de façon plus... peut-être plus poétique, et donc plus théâtrale, plus imagée, mais qui sera plus forte. Ils pourront imprimer davantage ce que je leur raconte, parce que c'est le fond de mon métier. C'est comment raconter des choses en images, ou en texte, ou les deux en même temps, de la façon la plus efficace possible, que le partage soit le plus fort possible avec le public. Donc là, je me suis retrouvée sur scène, je faisais mes conférences, je me suis dit, je vais faire un spectacle. Et si vous voulez, ça m'a pas arrêté le fait que ce soit nouveau. Au contraire, c'était plutôt excitant. Et donc, j'ai conçu ce spectacle, qui est une conférence théâtralisée autour de mon travail, et de mes souvenirs, de mes états d'âme, etc., et autour du métier d'illustrateur. Mais je ne peux rien vous dire d'autre. Pourquoi je l'ai fait ? Parce que c'est marrant. Voilà. Je ne peux pas tellement vous dire ça autrement. Hein. Mais tout ce que je fais, c'est parce que ça m'amuse, hein, avant toute chose. Voilà.
Et donc, la chanson, ça a donc été un grand moment de plaisir dans Une chose formidable.
La chanson, parce que j'ai travaillé avec des musiciens qui m'ont dit, bon, allez, on fait une chanson. Et je leur ai dit, non, arrêtez. Rigolez pas avec ça, les gars, c'est pas mon métier quand même. Si, on fait une chanson. Et voilà. Bon, d'accord, chiche. Et on l'a fait. Et après, c'était... ça s'est prêté bien, si vous voulez, dans un album qui est, entre autres, destiné évidemment à la jeunesse. C'était bien de composer de travailler avec ce compositeur, donc Philippe Morino, qui a composé une chanson que peuvent reprendre, je sais pas, des classes qui vont travailler sur l'album, et tout ça dans cette ambiance un peu jazzy, voilà. Et moi, je prête ma voix à deux conteuses au chant. J'estime pas tant avoir chanté que avoir été la conteuse qui se met à chanter en fin de l'histoire, comme je sais pas, quelqu'un qui raconte une histoire à son enfant le soir, finit par lui chanter une berceuse, quoi. C'est un peu comme ça qu'il faut voir le projet. Je vous avoue que là, la chanson, quand même, ça a été un peu dur d'accepter pour moi, d'aller jusque-là. Le théâtre, ça allait, danser sur scène, ça allait, chanter, il a fallu me convaincre. Mais on s'est bien amusé, ouais. C'était très très chouette de faire ça.
Merci beaucoup, Rebecca d'Outremer. J'ai rappelé les références d'Une chose formidable, donc votre dernier livre avec Jacominus Gainsborough. C'est un livre de 56 pages avec son CD. Son prix est de 28 euros. C'est publié par les éditions Sarbacane. Et je crois que le livre a été imprimé en France. Et très bonne continuation. On va finir avec un autre extrait d'Une chose formidable. Et très bonne continuation à vous. Et on sera au rendez-vous aussi pour le roman graphique à venir.
Ah oui, il faut encore une bonne année et j'y serai. Voilà.
Super.
Merci.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Surgit le presque rien, 0,3 fois minus. Un souffle dans ton dos et bascule pour un tour, ce qui fit camarade ton ami de toujours. Gravé sur ta béquille, cela, Jacominus, tu n'y as pas pensé, tout effacé, motus. Surtout ne pas confondre, petit trou dans sa poche, et tes fleurs préférées à l'heure bleue tu t'accroches. Surgissait sans malice, la bille grain de sable, le prix de pas un clou, sans souvenir encore, ce petit rien du tout valait plus qu'un trésor, Nemobius, Sylvestris.
Voilà, c'était Écriture dessinée avec Rebecca d'Outremer et son magnifique Une chose formidable. Merci Fabien pour cette technique. La semaine prochaine, nous serons avec Georges Bess pour son adaptation littéraire de Notre-Dame de Paris. Et très bonne semaine à tous. Écriture dessinée.